C'est un secret énorme qui pèse sur ces trois morts, sur celle d'Aloïs Esterman, tout nouveau commandant de la garde suisse pontificale, ainsi que sa femme et le caporal Cédric Tornet. Toute l'Italie regarde incrédule le Vatican, sa cité protégée, s'ouvrir aussi à la violence.
Bonsoir. Meurtre au Vatican. Trois corps retrouvés dans un logement à quelques dizaines de mètres seulement des appartements privés du pape, des coups de feu et un coup de folie attribué à un jeune garde suisse, le vice-caporal Cédric Tornet. C'est lui qui aurait abattu dans un moment de grande détresse son supérieur hiérarchique et son épouse. C'était au mois de mai 1998 et cette version, la version du Saint-Siège, n'a jamais varié d'un pouce. Cédric Tornet a toujours été considéré comme l'auteur du double meurtre au terme duquel il se serait suicidé. Explication officielle qui ne résiste pourtant pas à une multitude d'interrogations, une scène de crime qui ne correspond pas aux constatations des experts, un suicide qui n'en serait pas un, une lettre d'aveu tellement parfaite qu'elle aurait été fabriquée après la tragédie. Et puis ce silence épais, obsédant, qui règne depuis 22 ans sur cette affaire. Autant de doutes que nous avons ce soir décidé d'explorer avec nos invités. Existe-t-il d'autres scénarios pour expliquer ce drame? Et détient-on vraiment la preuve que le jeune vice-caporal était l'auteur de ces crimes? Que s'est-il passé derrière les murs épais du Saint-Siège?
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir donc, dans l'heure du crime, meurtre au Vatican. Depuis l'époque des Borgia, à la fin du XVe siècle, le sang n'avait pas coulé de cette façon derrière les fenêtres donnant sur la place Saint-Pierre, jusqu'à ce soir de printemps 1998. Dans la soirée de ce lundi 4 mai 1998, le colonel Aloïs Esterman et son épouse Gladys Mezza sont dans leur appartement au deuxième étage du Vatican, à proximité de la porte Sant'Anna. Esterman est un homme heureux. Le matin même, il a appris qu'il allait avoir enfin le poste qu'il convoitait, devenir le 31e commandant des gardes suisses, la garde rapprochée ancestrale du pape. La nomination était bloquée pour des questions juridiques, mais Jean-Paul II, en personne, a fait sauter toutes les réserves. Il faut admettre que Aloïs Esterman, 43 ans, n'est pas n'importe qui. Le 13 mai 1981, place Saint-Pierre, jeune recrue de la garde suisse, il avait bondi pour faire rempart de son corps alors que le pape venait d'être touché par un coup de feu. Le Saint-Père, miraculé, n'avait cessé de célébrer son courage. Ce 4 mai au soir, tout le monde félicite Esterman de sa nomination. Aux alentours de 21h, il est au téléphone avec l'un de ses amis. Quand la porte de l'appartement s'ouvre, le colonel n'a pas le temps de raccrocher. Des coups de feu, clac. Aucun témoin de cette scène que le Vatican va ainsi reconstituer. L'un des gardes subordonnés d'Aloïs Esterman, le vice-caporal de la garde suisse Cédric Tornet, 23 ans, aurait fait irruption dans l'appartement en tenant son arme de service, un pistolet SIG 75 9 mm. Il aurait d'abord fait feu sur le colonel en train de téléphoner, une balle dans la joue gauche allant se loger dans la moelle épinière, une deuxième dans l'épaule gauche. L'épouse Gladys Mezza, employée à l'ambassade du Venezuela à Rome, se serait précipité. Cédric Tornet aurait à nouveau tiré, la tuant sur le cou. Après avoir abattu le couple, le jeune garde suisse se serait agenouillé et se serait tiré une ultime balle dans la bouche. Un suicide accrédité, dit-on, par la découverte de son pistolet sous son corps. Le bruit a vite attiré du monde vers l'appartement du deuxième étage, une scène de crime rapidement envahie par des gardes suisses, des gendarmes du Vatican, des prélats et puis les secours. Un témoin direct parle d'une scène de crime saccagée avant même que des constatations soient effectuées. 3 heures seulement après la tragédie, aux alentours de minuit, le Vatican est déjà en mesure de révéler ce qui s'est passé dans ce huis clos. Enquête express, le directeur de la salle de presse du Vatican, Joaquin Navarro Valls, évoque un ruptus de folie de la part du vice-caporal Tornet. Un coup de folie dévastateur. Il est l'auteur du double meurtre. Explication qui ne variera pas. L'enquête est confiée à la gendarmerie vaticane, dirigée par l'inspecteur général Camillo Chibin. Le Saint-Siège fait savoir qu'il ne fera pas appel à la police italienne pour régler ce cas. La brigade criminelle ou la police scientifique ne seront pas sollicitées. Il n'existe pas d'éléments qui permettent de demander l'aide judiciaire de l'Italie, précise alors le porte-parole. Bonsoir Madame Muguette-Boda.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes en direct depuis la Suisse où vous vivez. Vous êtes la mère de Cédric Tornet. Alors, on est là au tout début de cette enquête qui commence à l'abri des regards, on l'a bien compris. On va entrer dans les explications et les questions dans les chapitres suivants. Notamment, on parlera beaucoup de la fameuse lettre qu'aurait rédigée votre fils. Pour l'instant, si vous le voulez bien, Madame Boda, on va rester sur le tout début de l'affaire. Quand apprenez-vous la mort de votre fils Cédric, madame?
Le soir même, bon, moi c'était vers les minuit, parce que je n'étais pas à la maison. Mm-hmm. Le curé du village est venu voir, enfin, la cadette de mes fils était à la maison. Donc ils ne m'ont pas dit par téléphone, ils ont entendu que je rentre pour que...
Oui.
Pour m'avertir.
Que vous dit-on alors à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on vous raconte?
Bon, disons, c'est le gentil curé de mon village qui est très en peine pour moi pour
bien
annoncer,
sûr.
Parce qu'il n'est pas fait pour ça non plus.
Mm-hmm.
En disant qu'en premier, il était arrivé quelque chose à Cédric. Et puis qu'après, il me dit qu'il s'est suicidé. Et puis, bon, on écoute. Et puis voilà, et tout d'un coup, il me dit bon, il n'y a pas que ça.
Oui.
Il a tué encore deux personnes avec.
Alors là, je suppose que évidemment vous tombez des nues parce que Cédric,
oui.
vous l'avez eu, je crois, récemment au téléphone.
Il y avait le jour même, oui.
Voilà, il y avait. Qu'est-ce qu'il vous a dit ce jour-là, Cédric?
Bon, ça allait tout bien. Il m'a expliqué sa semaine et tout ça, tout ce qui était les préparations pour la sermentation des autres gardes.
Mmh.
Il faisait partie de la fanfare, donc c'est un tas de travail. Hein.
Ouais.
Pendant la semaine là, c'est énormément de travail.
Vous ne l'avez pas senti en colère ou inquiet à ce moment-là, votre fils Cédric?
Non, en colère, surtout pas, en tout cas pas avec cette histoire de médaille, parce que ça s'était dépassé depuis longtemps. Stressé, et puis il y avait la fermentation, il y avait quand même quelque chose avec M. Esperman, parce qu'il disait, si ça se passe quelque chose, il y avait déjà une dizaine de jours qu'il y avait... Il y avait des choses bizarres qu'il disait, qu'il faisait, le stress et tout. Mais en point de vue enfant, non.
Oui. Il y avait quelque chose entre les deux, c'est-à-dire qu'ils ne s'entendaient pas vraiment, c'est ça hein
Non, c'est ce qu'on a bien voulu dire pour donner des torts.
D'accord.
Parce que M. Sterman était comme il était.
Oui.
Ceux qui le connaissent le savent. Cédric, il était comme il était. Et puis
d'accord.
Ils se respectaient mutuellement.
Bien
mais
sûr.
Ils ne se haïssaient pas. Hein.
Oui, tout à fait. Non, bien sûr. La haine, ça, c'est un sentiment vraiment qui est étranger à ce moment-là. On peut pas aller jusque-là, évidemment.
Même plus tard. Hein.
Oui.
Je pense pas seulement à ce moment-là.
Hein. Bien sûr, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un sans éprouver. Évidemment.
On peut dire.
Bien sûr.
Votre chef, certainement, que vous avez pensé et dit à vos collègues, certainement, celui-là, si je pourrais l'attraper.
Oui.
Alors, je dis pas qu'il l'a pas dit ou qu'il l'a dit. En fait, c'était son chef, et un chef quand même très, très dur.
Oui, très, très rigide, ça c'est effectivement,
rigide,
tous,
voilà.
tous les témoignages vont dans ce sens. Encore, encore un petit mot, Madame Boda, votre fils Cédric, il a 23 ans à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il a choisi la garde suisse?
Oh, mais il y avait longtemps que ça, il avait toujours dit, depuis tout petit, qu'il voulait être garde suisse. Moi, je suis protestante, hein,
oui.
Je vais vous le dire. Donc moi, ça me choquait toujours. Puis je me disais, bon, après son papa, il était parti. Il est décédé en 80. Je lui disais toujours, je ne sais pas, quand papa, il est mort, parce que je savais que ça les garde du pape.
Ouais.
Alors, c'est une anecdote, mais il avait ça. C'était
une vocation, on peut le dire comme ça.
Oui, hein, moi, hein, je pense que c'est une vocation. Parce que de toute façon, quand ils sont petits, seulement petits, on ne relève pas, parce que les garçons, ils veulent être pompiers,
bien sûr.
Policiers, mais... tout ça.
Et
il a gardé ça.
Et pourquoi pas garde suisse, évidemment.
Oui.
Bonsoir, Yvonique de Noël.
Bonsoir.
Vous êtes historien et éditeur, auteur du livre Les espions du Vatican qui paraît aujourd'hui aux éditions Nouveau Monde. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'heure de crime et de nous donner la primeur de votre ouvrage. Alors, tout de suite, un mot, vous connaissez un petit peu ce monde du Vatican. On peut dire que c'est un événement tout à fait exceptionnel dans l'histoire du Saint-Siège.
Oui, alors effectivement, sur le XXe siècle sur lequel je me suis concentré, il y a énormément d'affaires, d'intrigues, de complots. Et il y a également des morts de prêtres, d'évêques, mais à l'extérieur. Des meurtres à l'intérieur du Vatican, c'est véritablement, comme vous l'avez dit, une première.
C'est ça, c'est une première. En deux mots, la garde suisse, c'est quoi ? Qu'on reconstitue un petit peu ?
Alors, la garde suisse, c'est une très vieille institution qui est chargée de la protection du pape. Avec le temps, on a créé une deuxième institution qui est la gendarmerie. Dirigé par Camille Ossibine, comme vous l'avez rappelé. Donc les institutions, à l'époque, se recoupent un peu. On considère que la garde suisse a plus une fonction qui est devenue un petit peu folklorique.
D'apparat.
Ça fait partie du folklore du Vatican.
D'accord. Et effectivement, on verra que la place de la gendarmerie, qui est tout à fait différente et qui va mener cette enquête. Enquête, justement, on en parle avec notre troisième invité ce soir, Maître Luc Brossolet. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être en ligne dans l'heure du crime. Vous êtes l'avocat de la mère de Cédric Tornet qu'on a entendu au début de cette émission. Juste en quelques mots, maître, l'enquête, le Vatican dit « elle reste au Vatican ». C'est déjà un signe un petit peu de volonté de garder pour soi ces investigations ?
Bien entendu. C'est un signe, mais c'est un signe qui est ensuite confirmé puisque une fois que l'enquête sera terminée et à ce moment-là on devrait pouvoir y avoir accès, eh bien la gardera secrète dans des conditions qui sont incompréhensibles.
Deux jours après le drame, les trois cercueils sont exposés dans la chapelle dédiée à Saint-Martin. Le pape s'agenouille et prie devant les dépouilles. Les funérailles du couple Esterman auront lieu le soir même, celle de Cédric Tornet le lendemain. Le Vatican semble pressé d'en finir avec cette tragédie survenue derrière ses murs. Le scénario des crimes a été très rapidement établi. Les autorités du Saint-Siège présentent illico presto le vice-caporal Tornet comme un garçon instable et tourmenté. Il n'aurait pas supporté d'être exclu d'une remise de médaille, la Benemerenti, médaille du mérite, décoration remise aux gardes suisses qui ont passé 2 ans au Vatican. Tornet n'était pas sur la liste des récipiendaires. Il n'était pas invité non plus à la cérémonie qui devait introniser le 6 mai Alois Esterman à la tête des gardes suisses. Les rapports entre le colonel et le vice-caporal se seraient détériorés. Deux hommes qui ne se ressemblaient sur aucun point. D'un côté, un gradé rigide, baigné de foi catholique. De l'autre, un subordonné pas forcément versé dans la religion et prenant la vie au Vatican à la légère. Esterman l'aurait rappelé à l'ordre à 2 reprises. Dans un rapport, il fait état d'un garçon peu équilibré, arrogant et sans jugement. Cédric Tornet est encore présenté comme un jeune homme irrévérencieux qui fumerait des joints et se moquerait de la discipline. Les enquêteurs du Saint-Siège, qui ont rapidement perquisitionné la chambre du meurtrier présumé, affirment avoir découvert une boîte de pellicules photo avec 24 mégots à l'intérieur, des restes de cannabis. Ils ont également mis la main sur une lettre manuscrite. Celle-ci a tout d'une confession. Cédric Tornet évoque la médaille Benemerenti qui lui a été refusée. De toute évidence, cette affaire a suscité chez lui une vague de ressentiment. « La seule chose que je voulais, ils me l'ont refusée », écrit-il. « J'ai juré de donner ma vie pour le pape et c'est ce que je fais », ajoute le garde suisse. À sa famille, il dit s'excuser de la laisser toute seule, mais son devoir l'appelle. À sa mère, Muguette, il dit « J'espère que tu me pardonneras, car ce que j'ai fait, ce sont eux qui m'ont poussé. Gros bisous à la plus belle maman du monde, ton fils qui t'aime. » Cette lettre a été glissée dans une enveloppe au nom de Muguette Chamorel, le nom du deuxième mari de sa mère, un nom de famille que Cédric n'utilise jamais. La mère de Cédric va confier le courrier à des experts graphologues. Ces derniers vont émettre des doute sur son authenticité, vu le nombre d'erreurs et d'incohérences répertoriées, il pourrait s'agir d'une contrefaçon. Muguette Boda, vous êtes justement en ligne ce soir dans l'heure du crime et l'une de nos invitées dans cette émission. On va donc vous remettre cette fameuse lettre qui confirmerait pour les autorités du Vatican l'intention criminelle de votre fils, sauf qu'il n'y a pas grand-chose qui va dans cette lettre. En premier lieu, et ça a été, je crois, votre première surprise, ce sont les derniers mots de Cédric, sa dernière phrase. Quand il vous embrasse.
Oui, c'est quand il me connaissait, il savait que j'allais pas lui pardonner si je décidais puis tuer deux personnes. Hein.
Oui.
Ça, c'est l'éducation qu'il a reçue et puis qu'il va garder. Je pense pas qu'il y a beaucoup de. Enfin bon.
Je crois qu'il y a ces mots qui vous ont surprise, ces gros, gros bisous.
Ils m'ont choqué.
Oui.
Ils m'ont choqué parce que bisous à la plus grande maman du monde, il en a qu'une. Comment savoir que c'est la plus grande maman du monde? Et moi, c'est ça. C'est parce que j'étais très liée, je suis très liée avec tous mes enfants. Hein. C'est dans la base de mon éducation que j'ai donnée à mes enfants. Donc, c'est cet amour, voilà. On n'a pas besoin d'écrire des trucs à la pas possible pour dire qu'on s'aime.
Oui. Muguette Botta, vous ne l'avez pas reconnu, votre fils, à travers ses écrits, à travers cette lettre?
J'ai reconnu un peu la trajectoire qu'il a fait, mais lui-même non, parce que j'ai même pas reconnu l'écriture. Elle ressemblait beaucoup. Mais les fautes qu'on a voulu lui impliquer, c'est pas les fautes qu'il aurait fait. Parce qu'en plus, je peux vous montrer le nombre de lettres. Non, vous êtes un peu loin, mais le nombre c'est de lettres qu'on s'écrivait avant qu'on ait le portable, on s'écrivait au minimum une lettre par semaine. Donc, je sais comment c'est. Et puis, c'est même pas la question, parce que là, on est en train de revenir au tout début des 23 ans. C'est vrai que vos auditeurs, ils ont...
Bien sûr, mais il faut rappeler, c'est important.
Il faut qu'on rappelle un peu les choses, mais il faut aussi un peu évoluer dans ce qu'on fait ce soir. Parce que je suis là parce qu'un livre va sortir. Je sais pas ce que ce monsieur a écrit dans son livre, parce que jusqu'à maintenant, honnêtement, j'ai eu que du copier-coller.
Là,
depuis 23 ans.
Oui,
non, alors, c'est... Il y a un petit truc, j'aimerais bien aussi.
Ah, ben ça, on aimerait bien que ça avance, évidemment. Et on est là pour ça, justement, pour susciter éventuellement des témoignages dans l'heure du crime. C'est important. On a en ligne, justement, Maître Luc Brossolet, l'avocat, c'est votre avocat, l'avocat de la mère de Cédric Tornet. Je voudrais qu'on revienne avec vous, Maître Brossolet, sur cette lettre, qui est importante. C'est quelque chose de très important dans ce dossier. Quels sont les éléments qui clochent dans cette lettre?
Les éléments sont... Il y a beaucoup d'éléments. Il y a, comme vient de le rapporter Mme Botta, il y a une manière de s'exprimer, il y a des fautes, il y a aussi l'écriture. Et puis, il y a ensuite, pour moi qui suis extérieur, c'est essentiel, il y a le nom sur l'enveloppe. À ce moment ultime, pour la première fois, Cédric écrirait à Madame Chamorel, c'est-à-dire il utiliserait pour s'adresser à sa mère un nom patronymique qu'il n'a jamais utilisé auparavant dans aucune des lettres qu'il lui a adressées.
Oui.
C'est très surprenant.
Oui.
Et pourquoi c'est une explication quand même qui mérite que l'on s'y arrête. Pourquoi est-ce que ce nom patronymique serait utilisé par Cédric? Eh bien, pour une raison très simple, c'est que là, à la documentation de la garde, on a sur Cédric des indications sur le nom de ses parents et de sa mère, et sur les indications que l'on a sur sa mère, eh bien, il y a ce nom patronymique qu'il n'utilisait jamais.
Et c'est ça. Donc
les faussaires, les ceux qui veulent faire croire à un suicide qui fait suite à un dramatique double homicide, se réfèrent aux aliments qu'ils ont, et ce sont ceux qu'ils ont
à disposition dans les papiers officiels du Vatican, tout simplement.
Exactement. Hein, c'est
ça. Donc, et j'ajoute à cela, maître, parce que c'est quand même important, il disait jamais le pape, Cédric Tornet, il parlait comme ça, il disait éventuellement le Saint-Père, hein, ça c'est quelque chose qui revient.
Bien sûr.
Et dans cette lettre, il y a le pape avec d'ailleurs un P minuscule.
Oui, ce qui est très étonnant pour tout à fait. Sous sa plume.
Oui, et qui pourrait passer pour un manque de respect, alors qu'il n'était pas du tout dans cette optique-là. Yvonique de Noël, auteur du livre Les Espions au Vatican, on a quand même le sentiment que le Saint-Siège dresse un portrait très sombre, très noir de Cédric Tornet.
Oui, il y a une thèse qui est établie très rapidement. Alors, je précise que effectivement, mon propos, c'est de faire une histoire au long cours de l'espionnage au Vatican, et donc je m'intéresse à cette affaire parce qu'elle recèle plusieurs aspects d'affaires d'espionnage. Mmh. Pas pour l'assassinat en tant que tel, mais pour ce que cette affaire permet de dévoiler. Un des aspects qui m'a semblé intéressant là-dedans, c'est que le directeur de la communication du Vatican, qui tout de suite prend les choses en main, Joaquín Navarro-Valls, est membre de l'Opus Dei, et que les époux Esterman sont tous deux membres de l'Opus Dei.
Et selon... Qui est la branche radicale de l'Église, hein, on pourrait dire comme ça.
Qui est une prélature personnelle à l'époque. Jean-Paul II lui a accordé le statut de prélature personnelle et qui est effectivement un mouvement au sein de l'Église considéré comme relativement extrémiste dans ses options philosophiques. Et il semblerait que Cédric Tornay avait été recruté par un membre d'un service, un réseau de renseignement du Vatican pour enquêter sur les agissements des époux Esterman, qui semble-t-il faisaient du prosélytisme au sein de la garde suisse pour l'Opus Dei. Donc ça, c'est un des aspects qui peuvent être intéressants à regarder.
Et on va y revenir évidemment sur ces aspects un peu de troubles autour de l'Opus Dei. Des questions qui ne vont pas en rester là, d'autres vont porter sur la scène de crime, la position des corps et une introuvable autopsie. 9 mois après le drame, le 5 février 1999, le juge instructeur du tribunal du Vatican, Gianluigi Maroni, conclut au classement du dossier Esterman-Tornay. Le magistrat confirme point par point la version présentée par les autorités du Saint-Siège, celle d'un double meurtre suivi du suicide de l'auteur, le vice-caporal Tornay. Il n'y a pas lieu d'engager une action pénale, l'affaire va donc en rester là. Une dizaine de pages seulement du rapport d'enquête sont alors rendues publiques. On y apprend que le meurtrier présumé souffrait d'une anomalie mentale. Lors de l'autopsie, les légistes auraient décelé la présence dans son crâne d'un kyste de la taille d'un œuf de pigeon. Celui-ci comprimait le cerveau et pourrait avoir altéré son comportement pour le Vatican, tout le temps à prouver que le vice-caporal était atteint d'hallucinations, de crises de discernement, de pensées confuses et désorganisées. Des conclusions réfutées par la mère de Cédric Tornay qui confie au journal Il Messaggero, les trois morts du 4 mai 1998 sont les victimes d'une machination. Après le rapatriement du corps de Cédric Tornay en Suisse, la mère du vice-caporal saisit l'Institut médico-légal de Lausanne pour des analyses plus approfondies. Le professeur Thomas Krompecher rédige un rapport et note de nombreuses anomalies. Aucune vertèbre n'est fracturée sur le corps du garde suisse. S'il avait eu la tête en avant et se serait tiré une balle dans la bouche, il en serait tout autrement. La balistique suscite également des interrogations. Le trou de sortie du projectile 7 mm ne correspond pas avec l'arme de service qu'il aurait utilisée pour se suicider. La balle remise à la mère de Cédric Tornay, balle qui aurait causé sa mort, est totalement intacte, alors que selon les experts, elle aurait dû être en partie écrasée. Le professeur Krompecher va demander à son homologue du Vatican une copie de la première autopsie. Entre sommités médicales, ce genre d'échange est une habitude, sauf que dans le cas présent, le médecin suisse n'obtiendra jamais aucune réponse. À ce jour, cette autopsie et la plus grande partie du dossier d'enquête n'ont jamais été communiquées à la famille de Cédric Tornay ni à ses avocats. Muguette Boda, beaucoup de questions tout de suite dans cette affaire, et vous en êtes évidemment la première témoin. On vous a proposé, je crois, à l'époque, d'incinérer votre fils, presque tout de suite après sa mort. Hein.
Le jour où je suis arrivée là-bas.
Et vous avez été surprise par cette proposition ?
Non, pas du tout. Parce que, comme je vous ai dit, protestante, pour moi, l'incinération, c'est courant. Et puis, par chance, comme je l'ai déjà dit, le président de Rome était absent et c'est que lui qui pouvait signer l'autorisation, vu que ça se passait au Vatican. Le temps qu'il rentre, j'ai réfléchi, ça m'a sauté à l'esprit que je pouvais pas faire ça, montrer les cendres à mes deux filles.
Bien sûr.
Donc j'ai refusé. Et c'est seulement 2 ou 3 ans après que je l'ai dit, qu'on m'a dit, mais c'est important, les catholiques, ils brûlent pas les corps et tout ça.
Bien
mais
sûr.
Moi, j'ai jamais été choquée pour ça.
Oui, c'est ça. Ça vous avait pas affleuré l'esprit à ce moment-là?
Non, ça m'a pas du tout. Hein. Parce que j'ai pas un esprit tordu. Hein. Vous savez, si j'ai 23 ans que je suis là,
oui,
c'est pas parce que je veux avoir raison.
Oui.
Hein.
Et ça veut dire que vous êtes solide 23 ans après pour être là et pouvoir témoigner encore de ce drame que vous avez vécu. Vous avez dit à l'époque, et je l'ai cité au journal Il Messaggero, les trois victimes sont les victimes d'une machination. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là, à cette époque?
Oui, je ne sais pas. Vous savez, quand vous traduisez l'italien en français, certainement...
Ah, c'est un peu compliqué.
Ouais. Oui, j'ai certainement... Je n'ai pas dans la mémoire, parce que j'ai tellement eu journaliste quand même, sans vouloir dire. J'ai dit que c'était certainement un coup. C'était une machination qui avait été faite pour tuer peut-être les époux Esterman.
Oui.
Je ne m'occupe pas plus que ça non plus de leurs propos. Moi, mon propos, c'est pourquoi on accuse mon fils.
Hein. Bien sûr. Bien
pourquoi
sûr.
Les Esterman ils sont morts, ça, c'est pas mon...
Oui. Pourquoi on accuse votre fils et pourquoi on ne vous présente pas les preuves? Parce que c'est ça la question principale.
Et pourquoi, si c'était pas parce qu'on pose des questions sur Esterman, on pourrait aisément me dire que le docteur n'avait rien fait. C'est quand même une machination. Pas dans le terme français, si vous voulez,
ouais.
Mais c'est quand même, oui, il y a quand même eu quelque chose là-dessous, quoi. Parce que de toute façon, ceux qui ont tué les Esterman, c'est pas un pauvre garçon, soi-disant, qu'est-ce que vous avez dit, tout ce que vous avez dit sur lui, malade,
c'est ce que dit le Vatican,
oui.
Hein, c'est pas moi.
Hein, non, je suis d'accord avec vous, excusez-moi. Il pue comme un killer. Hein.
Oui, oui, tout à fait. Et de sang-froid, on pourrait dire. Hein, c'est-à-dire que,
oui,
voilà, il n'y a pas de pitié. Alors, même si Esterman était peut-être son ennemi, il tue aussi son épouse, etc. Bon, donc ça fait beaucoup. Maître Luc Brossolet, je parlais de cette histoire de suicide avec cette position agenouillée qui ne cadre pas du tout avec les résultats des légistes, finalement.
Mais oui, ça ne cadre pas pour une raison très simple. C'est que on dit que la balle qui aurait tué Cédric a fini sa trajectoire dans la maçonnerie du plafond.
Mmh.
Et on dit aussi, dans la reconstitution officielle, que Cédric se serait suicidé à genoux, comme il se doit au Vatican, comme dans un acte de contrition.
Oui, en position de prière.
En position de prière. Or, le corps de Cédric a été soumis par Muguette Bodard, sa mère, à des légistes neutres en Suisse, lorsqu'il a été rapatrié en Suisse. Et ce que l'on a pu, ce qui est acquis à la lumière des constatations de ces médecins légistes, c'est que la balle a pu passer là où elle est passée, par miracle d'ailleurs, parce que la tête de Cédric était dans une position, la tête renversée en arrière.
La tête en arrière, ce qui signifie aussi, alors là c'est plus compliqué pour se suicider déjà avec la tête en arrière, ça veut dire
qu'en tout cas, ça ne permet pas à la balle qui traverserait la boîte crânienne, enfin qui sortirait en bas de la boîte crânienne à l'arrière,
bien
ça
sûr.
Ne permet pas d'avoir une trajectoire ascendante et de finir sa trajectoire dans le plafond.
Et c'est un élément effectivement extrêmement important. Yvonique de Noël, vous êtes ce soir dans le studio de l'heure du crime, auteur du livre, je le rappelle, Les Espions du Vatican, qui sort aujourd'hui même aux éditions du Nouveau Monde. Alors il y a cette communication qui a été très rapide dès le début, hein, on a bouclé l'affaire, etc. Ça a été expédié. 3 heures après, on savait à peu près ce qui s'était passé, ce qui est rare en matière criminelle, il faut bien l'avouer. Là, il y a un juge, Gianluigi Marone, qui est le seul juge d'ailleurs du Vatican qui a pris l'affaire en main. C'est la loi du silence quand même qui règne.
Alors, il faut bien comprendre que nous voyons ça depuis la France ou depuis la Suisse, dans des pays qui sont des démocraties, avec une presse qui est un quatrième pouvoir, qui a le droit d'enquêter et de demander des comptes à la justice. Le Vatican est un univers clos, c'est une monarchie absolue. C'est-à-dire que tout procède de la secrétairie d'État. La secrétairie d'État, c'est ce qui concentre vraiment le pouvoir exécutif du Vatican. C'est comme si on additionnait le Premier ministre, le ministère ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, c'est un pouvoir absolu. Bon. Ensuite, le juge dont vous parlez, c'est pas un juge au sens d'instruction, au sens où nous l'entendons. C'est un monsieur qui est juge à temps partiel et qui, le reste du temps, est DRH au Parlement italien. Donc, c'est pas du tout lui faire insulte que de dire qu'il n'est pas au même niveau d'expertise et de technicité qui peut être celui de nos juges d'instruction et que peut-être on lui demande d'abord et avant tout d'avoir des qualités de loyauté par rapport à l'institution.
Oui, donc il va obéir finalement à ce qu'on lui présente. Et ce qu'on lui présente, c'est le travail de la gendarmerie papale, je ne sais pas comment on peut l'appeler. En tout cas,
oui, la gendarmerie, la vigilanza.
La gendarmerie du Vatican, qui elle aussi, il faut quand même le dire, n'est pas très armée pour affronter ce genre d'affaires. Ce n'est pas des grands enquêteurs, la gendarmerie du Vatican.
Alors c'est une petite institution, ce ne sont pas des gens incompétents, ce sont des gens dont la mission première est d'abord de protéger le pape. Ils ont encore le souvenir cuisant de l'attentat de la place Saint-Pierre, et donc ils essayent de monter en compétence à l'époque. Mais encore une fois, ce sont des enquêteurs qui sont avant tout aux ordres de la secrétaire d'État. Donc ils enquêtent et ils investiguent dans la direction qu'on leur donne. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont malhonnêtes, ce qui veut dire simplement qu'on leur dit voilà ce qui s'est passé, allez chercher les preuves, et donc ils ne prennent pas forcément le temps d'aller regarder toutes les options.
Maître Luc Brossolet, je pense que vous n'avez jamais pu entrer en contact avec la gendarmerie du Vatican ou avec les personnes qui s'occupaient de l'enquête sur place.
Non, jamais.
Ça a été une fin de ne recevoir à toutes vos demandes.
Non, pas exactement, parce que moi j'interviens après. J'interviens après que l'enquête soit terminée, qu'un décret ait mis fin à l'instruction, si tant est qu'on puisse appeler ça une instruction. Mais nous n'avons jamais eu accès à ce qu'avait fait la vigilanza et à ce qu'avait fait le juge.
Bien sûr.
Et c'est ça pour nous le problème principal, c'est que tout le monde a le droit de se tromper, tout le monde a le droit d'avoir une opinion, tout le monde a le droit d'interpréter comme il croit devoir interpréter certaines choses, mais il faut que ça puisse donner lieu à un débat. Et il n'y a jamais eu de véritable débat puisque on nous prive de tout accès aux éléments du débat lui-même.
Face au silence du Vatican et après une enquête bouclée en un temps record, les spéculations vont aller bon train. Mise en scène pour étouffer un scandale, intérêts financiers, affaires de mœurs, autant de scénarios envisagés. Les années se suivent et le dossier Cédric Tornet s'enfonce de plus en plus dans le mystère. En l'absence d'éléments fournis par le Vatican, notamment le fameux rapport d'enquête du juge Gianluigi Marone, pièce protégée, confidentielle, les doutes grandissent. Des questions se posent ainsi sur l'homme qui était visé dans cette tuerie, le colonel Alois Sesterman, le sauveur du pape après l'attentat sur la place Saint-Pierre. Il était l'une des rares personnes à être dans les petits papiers du Saint-Père, au point d'être informé de certains secrets. Proche de l'Opus Dei aussi, Sesterman, la branche radicale de l'Église catholique, aux premières loges pour suivre la déconfiture du Banco Ambrosiano, un scandale financier de grande ampleur touchant le Vatican. Un journal allemand, le Berliner Courier, va aller encore plus loin en révélant que Alois Sesterman avait été à une époque recruté par les services de renseignement est-allemand, la Stasi, révélation a priori rocambolesque, mais qui sera pourtant approuvée par l'ex-chef du contre-espionnage italien, l'amiral Fulvio Martin. Et puis, cette information encore, quelques jours avant le drame, le colonel Sesterman aurait émis le vœu de se retirer au Venezuela, patrie de son épouse, car il craignait pour sa vie, bref, beaucoup de questions pour un seul homme. D'autres interrogations vont également rester sans réponse. Pourquoi cette visite de deux émissaires du Vatican auprès de la mère du jeune garde suisse pour lui demander de ne plus se mêler à l'enquête? Pourquoi, juste après la mort de son fils, un prélat aurait encouragé cette même mère à faire incinérer le corps de Cédric alors que l'Église catholique ne préconise jamais une telle démarche? Pourquoi encore, lors des obsèques, un jeune diacre français proche du Vatican se serait exclamé « Ils l'ont tué » en parlant du vice-caporal, cet homme qui aurait détenu des documents pouvant prouver que Tornet était une victime, ne souhaitera plus jamais commenter l'affaire. Un prélat originaire de Bayonne écrira en 2001, sous le sceau de l'anonymat, que Cédric Tornet avait été tué et que le jeune diacre possédait les pièces attestant de ce crime. affirmation qui ne connaîtra pas de suite. Yvonique de Noël, ce soir dans le studio de l'heure du crime, auteur du livre Les espions du Vatican. Alors, que penser de cette personnalité d'Aloïs Westermann, qui est peut-être beaucoup plus multiple qu'on ne le croit, espion de la Stasi?
Alors ça, c'est une thèse qui a été agitée par un journal berlinois et qui mène à une impasse. C'est-à-dire que il est assez facile aujourd'hui de savoir qui a été espion ou pas de la Stasi. Et tout simplement, en regardant ce qu'a été la production en termes d'informations communiquées par cet espion, on s'aperçoit que sa production a commencé avant qu'il soit au Vatican. Donc ça ne colle pas, tout simplement. Donc Et plusieurs anciens responsables de la Stasi, sans dévoiler leur véritable source, ont dit non, ce n'était pas lui. Donc première hypothèse, ça, on peut l'écarter, même si beaucoup de gens ont fantasmé autour de ça, évidemment.
On est d'accord. Alors, il y a quand même d'autres constantes qui reviennent autour de Westermann, qui est surtout un personnage beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. L'Opus Dei, ses liens avec le pape, est-ce qu'il était détenteur de secrets ?
Il y a plusieurs, c'est une histoire à tiroir dans laquelle il y a plusieurs sources de questionnement. D'abord son épouse, c'est vraiment un personnage étonnant, c'est une vénézuélienne, elle a été mannequin mais elle a aussi travaillé, dit-on, pour le ministère de l'Intérieur vénézuélien, et là elle se trouvait soi-disant à Rome pour exercer un emploi vraiment totalement lambda. Un certain nombre de membres de la communauté du renseignement se sont demandé si elle n'était pas, elle aussi, membre de services secrets vénézuéliens. Donc ça fait partie d'un ensemble. Les deux étaient membres de l'Opus Dei, qui est une organisation avec des ramifications réellement internationales. Est-ce que leur activité se limitait à faire du recrutement au sein de la garde suisse ? Alors c'est vrai qu'Esterman, de par sa position, avait des informations extrêmement sensibles sur le pape, et en particulier sa santé, qui à l'époque était très vacillante.
Donc ça, c'est important. C'est quelqu'un qui était au centre du jeu au Vatican, un personnage de l'ombre, mais qui avait accès comme ça à une foule d'informations. Hein. Ça,
oui.
C'est une certitude.
À l'époque, le pape décline fortement, et à chaque fois qu'un pape approche de son terme, eh bien, tout Évidemment. Le Vatican bruit de rumeurs, de positionnements, de discussions, pour essayer de savoir comment on peut orienter à son propre bénéfice le choix du prochain pape. Donc ça, c'est un enjeu également important à considérer.
Alors, Maître Luc Brossolet, avocat de la mère de Cédric Tornet, on écoute la Yvonique de Noël avec ses secrets du Vatican. Est-ce qu'on peut imaginer que finalement Cédric Tornet aurait été l'homme idéal pour être un paravent, finalement, porter le chapeau d'un crime qu'il n'a pas commis ?
Ouais, écoutez, je vais rebondir sur le terme imaginer. Nous n'avons jamais été les tenants d'imagination. Nous avons surtout, avec Muguet Boda et ceux qui l'ont entouré et l'ont aidé, nous avons été rationnels et nous avons essayé d'analyser les éléments qui étaient en notre possession et qui présentaient qui étaient certains et exempts de toute contestation. Mmh. Et donc, la chose à laquelle nous sommes limités, premièrement, c'est dire les éléments avancés par le Vatican pour présenter comme Cédric comme le double assassin suivi d'un suicidaire ne sont pas probants. Mm-hmm. C'est la lettre, vous l'avez dit.
Bien sûr.
Ce sont les éléments de balistique, on l'a dit tout à l'heure, et ce sont tous les autres éléments sur la vie de Cédric par ailleurs. Donc c'est ça à quoi nous sommes attachés. Donc nous ne sommes pas dans l'imagination. Nous sommes certains d'une chose, c'est que Cédric n'est pas l'assassin décrit par le Vatican.
Mmh, voilà. Parfait. Ça c'est une certitude et vous l'avez établi malgré le peu d'éléments qu'on vous a communiqué. Madame Muguet Boda, la mère de Cédric Tornet, j'ai envie de vous poser une question toute simple. Vous, est-ce que vous avez subi des pressions pour ne pas vous mêler de cette affaire ?
Par les journalistes, les médias, les télévisions, et puis le monde entier, et puis les deux émissaires qui sont venus, pas forcément plus que ça, non.
Mais parce que moi, cette histoire de deux émissaires m'intéresse un petit peu, pardon d'y revenir, mais qu'est-ce qu'ils vous disent, ces deux hommes ? Vous allez trop loin ?
Ils sont déjà venus chez moi avec une boîte de chocolat, en me disant simplement que j'avais déjà perdu un enfant, et puis que j'avais encore deux filles. Parce que c'est ça, les menaces qu'on a. C'est pas un pistolet ou un couteau ou une épée. C'est des phrases qu'on lance. Et puis que quand on entend les mots, on a de nouveau peur.
Bien sûr, c'est une menace.
Et ça devant ma fille. J'avais la dernière, elle était là aussi, devant les enfants.
C'est incroyable. C'est une menace.
Et ensuite, quand on se plaint, excusez-moi,
allez-y.
On vient me dire que c'est des hommes d'église, ils n'ont pas de diplomatie avec les dames, et c'est pour ça.
C'est une menace à peine voilée, hein, on peut le dire, comme ça. Hein.
Ah non, elle n'est pas voilée du tout, hein, parce que moi, en tout cas, je n'ai pas fait les hautes études, mais je peux vous dire que j'ai compris ce que ça voulait dire. Hein. J'ai l'air de rire, mais parce que c'est avec le recul.
Je comprends bien.
Et ils ont réitéré, j'ai eu quand même deux rencontres. Et quand on écrit ça au Saint-Père, dans une lettre que le Saint-Père a reçue, eh ben, le nonce apostolique, 3 mois après, il était mort, soi-disant.
Ah bon?
D'un cancer, alors qu'il venait d'être élu. Oui. Et on lui avait donné ce grade pour le remercier des services rendus, quoi.
Malgré les doutes, le Vatican va rester sourd aux demandes de la famille de Cédric Tornet, comme si le Saint-Siège, après avoir très rapidement tourné la page des meurtres, désirait que le livre entier soit refermé. 22 ans sans jamais avoir pu obtenir les pièces de la procédure Westermann-Tornet. Dès l'année 2002, les avocats de la mère de Cédric Tornet, désignés comme le meurtrier, à l'époque maître Jacques Vergès et Luc Brossolet, avaient demandé publiquement au Vatican la réouverture de l'enquête. Les deux défenseurs dénonçaient alors, je cite, « les secrets, silence et mépris du Saint-Siège ». Des défenseurs qui parlaient d'un déni de justice et déploraient les accusations lancées contre le vice-caporal sans que des preuves ne soient présentées. Le 27 avril 2002, maître Vergès, habitué des coups d'éclat, avait prévenu « si nous devions nous heurter à une surdité entêtée du Vatican, nous porterions l'affaire devant un tribunal suisse car Cédric Tornet était un citoyen helvétique ». Les années ont passé et force est de constater que le Vatican n'a jamais répondu aux sollicitations des avocats et de la famille de Cédric Tornet. Le pape Jean-Paul II n'avait ainsi donné aucune suite à ses demandes. En novembre 2008, la mère de Cédric Tornet avait saisi la justice suisse en déposant une plainte pour meurtre. Quelques semaines plus tard, le parquet de Genève classait l'affaire. Un témoignage ou un fait nouveau pourrait-il faire rebondir le dossier? Et cette question, je vous la pose, maître Luc Brossolet, avocat de la mère de Cédric Tornet. Est-ce qu'un témoignage ou un fait nouveau peut faire rebondir le dossier?
Dans cette affaire, comme dans toute affaire, un nouveau témoignage, un fait nouveau qui changerait la donne ou qui changerait radicalement l'appréciation qui a été portée sur les faits pourrait faire rebondir le dossier. Mais pour l'instant, nous sommes dans une notre optique. Nous travaillons toujours et nous recueillons toujours des éléments sur ce dossier. Mais ce que nous espérons, c'est qu'enfin le Vatican va changer d'attitude et va accepter soit de nous donner accès à la procédure, soit de discuter avec nous, soit enfin qu'il y ait une évolution.
Oui. Vous avez espoir, maître, que finalement, avec le pape François, les choses soient un petit peu différentes?
L'espérance, c'est une vertu cardinale, sauf erreur de ma part, mais il faut bien avoir cet espoir, puisque l'on nous dit que le rapport de du Vatican à la justice change. Depuis très très longtemps, si vous voulez, la parole pastorale du Vatican consiste à prôner les droits de l'homme et tous les droits qui constituent, qui donnent consistance à ces droits de l'homme. Et parmi ceux-là, il y a le respect, évidemment, des droits de la victime ou d'une possible victime qu'est, à nos yeux, Cédric Tornet. Ces droits-là, nous n'en obtenons pas le respect depuis maintenant,
hélas,
de très nombreuses années.
Oui, depuis deux décennies maintenant, c'est très long évidemment pour Muguette Boda, votre cliente, la mère de Cédric Tornet. C'est même interminable. Yvonique de Noël, on vient d'écouter Maître Luc Brossolet. Et je vous pose la question à vous aussi. Est-ce que le silence va se rompre dans cette affaire? Est-ce que le Vatican, presque nouveau, j'ai envie de dire, même si ça fait un petit moment que le pape François est aux affaires, peut réagir différemment dans ce dossier?
Alors, au Vatican, les évolutions sont toujours très lentes. Mais elles existent. Et effectivement, sur un certain nombre d'affaires sur lesquelles je me suis penché pour ce livre, comme par exemple les affaires de la Banque du Vatican, qui a été un véritable nid de problèmes et d'affaires très graves, on constate qu'il y a de la part du pape François une véritable volonté de prendre les choses à bras-le-corps et de réformer réellement. Alors, il se heurte à des oppositions très très fortes. Donc, je pense que ça peut valoir le coup pour Maître Brossolet. Je dis pas que les choses vont s'inverser du jour au lendemain, mais en tout cas, je pense que s'il y a un pape dans les derniers papes capable de faire preuve de bonne volonté sur le dossier, c'est peut-être le pape François.
Muguette Boda, la maman de Cédric Tornet, qui est ce soir notre invitée dans l'heure du crime, vous allez tout faire, je suppose, pour continuer. Vous ne baissez pas les bras, même si c'est difficile et que c'est long et que rien ne se passe finalement.
Non, mais il n'y a rien qui... écoutez, j'ai entendu une phrase, je vais vous la dire ce soir à 19h. C'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas les faire, c'est parce qu'on n'ose pas les faire qu'elles sont difficiles. Et je sais pas, c'est juste un petit message que j'ai reçu avant votre émission.
Oui.
Et je pense que c'est ça.
Oui.
Parce que votre invité pense que le pape François va faire quelque chose, et ben c'est très bien qu'il garde ses illusions. Mais mon conseil que vous avez au téléphone avec vous, demandez-lui depuis quand il a écrit au pape François.
Eh bien, on va lui poser la question tout de suite.
Voilà.
Maître Brossolet, vous voyez, on est tous ensemble ce soir au téléphone ou en studio de l'heure du crime. Vous avez écrit au pape François récemment?
Récemment, pas tout à fait, mais avant qu'il soit élu, évidemment, nous écrivons à tous les cardinaux pour les alerter, pour les sensibiliser au problème. Et je n'ai pas manqué d'écrire ensuite au pape François, dès qu'il a été élu, en espérant qu'il débloquerait les choses. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Récemment, on a des petites raisons, des raisons, on ne veut pas se précipiter, mais en tout cas, quelques raisons d'espérer que cela va changer, pour dire les choses telles qu'elles sont. Depuis son élection, le pape François n'a pas donné un signe très net en notre sens.
C'est ce que je voulais savoir, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu de réponse formelle à vos demandes.
Nous n'avons pas eu de réponse formelle pour l'instant à nos demandes. Nous espérons, à la faveur de démarches plus récentes, en avoir. Voilà, ça relève toujours du domaine de l'espoir.
Ouais. Muguette Boda, ben on a entendu, vous voyez, vous posez la question à l'avocat, il nous répond tout de suite.
Non mais moi je ne vous posais pas la question parce que je sais ce qu'il a fait.
Oui, mais je transmettais...
C'est pour qu'il le dise à vous.
Je transmettais votre demande et elle est importante, effectivement c'était bien de l'entendre. Qu'est-ce qu'il faudrait selon vous, Muguette Boda, pour que finalement le dossier redémarre? Ça serait d'avoir la transmission tout simplement du dossier judiciaire ou bien un témoignage? Qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous attendez?
Moi j'espère rien, nous on fait notre travail jour après jour, mois après mois. La seule chose que j'ai demandé au Saint-Siège, au Vatican... c'est l'autopsie, la première autopsie. C'est tout. Je n'ai pas demandé les monts et merveilles. Hein.
Oui, vous avez...
Je n'ai pas demandé les dossiers de 10 pages ou de 50, je ne sais pas quoi. S'ils nous donnaient déjà l'autopsie qu'ils ont pratiquée, soi-disant, et les analyses qu'ils ont faites, nous, ça nous suffit, on est heureux avec ça.
Cette autopsie, effectivement, elle est restée confidentielle et secrète, puisque, on le rappelle, hein, même le professeur que vous avez sollicité à Genève pour échanger avec ses collègues du Vatican, le Vatican est resté muet là-dessus, ce qui est exceptionnel d'ailleurs en matière médicale.
Mais secret, encore entre guillemets, parce que de cette autopsie que soi-disant ils ont faite, ils me sortent que Cédric a un kyste. Donc, ils disent ce qui leur arrange. Mais moi, ce n'est pas le problème. Je reviens au début. Vous allez dire que je suis tordue.
Allez-y. Non, un dernier mot.
Voilà, un dernier mot. Simplement, le Vatican nous dit, Cédric l'a fait, il nous donne les preuves ou l'a pas fait. Après, ils se débrouillent avec leurs affaires.
Merci beaucoup Muguette Boda, Luc Brossolet et Yvonique de Noël d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec Meurtre au Vatican, une vérité officielle qui n'est pas forcément la vérité, une affaire sous le sceau du secret. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Vivian Lecuivre à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir une nouvelle fois avec nous cette heure du crime.